On est en train de continuer l'étude sur le Saint-Esprit. On a encore pour plusieurs semaines parlé de ce sujet extraordinaire que j'aime parler. C'est quelque chose qui me bénit au bout de parler de celui qui est en nous, de ceux qui ont reçu le Christ, qui sont sauvés. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans chacun de nous? Parce qu'il faut le dire tout de suite en partant que si le Saint-Esprit n'aurait pas commencé une œuvre, on ne serait pas là. Si le Saint-Esprit ne serait pas révélé, on ne serait pas là. On ne serait pas là en train d'être sauvé, puis en train de louer Dieu, puis glorifier Dieu, puis de marcher avec Dieu. On serait dans le monde perdu, aveugle. On vivrait selon les passions de notre corps, puis il n'y aurait rien pour nous arrêter. Mais le Saint-Esprit, lui, il a commencé un œuvre dans celui qui le reçoit. Parce que là, on a vu la semaine passée qu'il faisait un œuvre pour essayer de convaincre les gens, puis les attirer à Jésus-Christ, puis il veut les amener à la repentance, mais le monde résiste quand même, mais Dieu, il travaille, puis il continue à mettre de la pression pour pouvoir les attirer. Mais là, ce soir, on va voir quelle est son œuvre en celui qui le reçoit. Pour celui qui décide de s'arrêter, puis dit là, je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Une fois que tu as réalisé, parce que le Saint-Esprit t'a fait comprendre, là, tu t'abandonnes toute résistance à l'Esprit de Dieu, puis là, tu te donnes à Dieu. Puis tu te donnes comme ben, Jésus, il dit, il faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même, prendre ta croix, puis le suivre pour devenir, à être son disciple. Il faut que tu sois prêt à vouloir t'engager à marcher à sa suite. Fait que là, le Seigneur nous a appelés, puis là, on répond, puis là, c'est le Saint-Esprit qui nous a aidés à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où ce qu'on le reçoit à notre conversion? Qu'est-ce qui se passe-t-il quand il entre dans une personne? Au départ, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne le possédait. Dieu, il est pas dans tout le monde comme qu'il y en a quelques-uns qui le pensent. Dans le monde, là, il y en a qui disent, mais on est toute une partie de Dieu, puis on a déjà tout Dieu en nous, puis on fait toute partie du même Dieu, puis on est tous des enfants de Dieu, puis on va tous se retrouver un jour dans le ciel. Ça, c'est la plus pire mensonge du diable qui a pas pu faire accraire aux gens. C'est vrai que nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Au départ, il n'y a personne qui possédait le Saint-Esprit sans voir passer par le Christ. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 2, le verset 11. Ça nous dit, ça parle à des païens dans la chair. Là, c'est nous autres, les païens dans la chair. Dans d'autres versions, ça s'appelle les gentils. Les gens du monde, tout ce qui n'est pas juif. Bon, il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, vous n'étiez pas des juifs, là. On était appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. C'est ça, ceux qui s'appellent circoncis, c'est les juifs. Ils étaient circoncis à la naissance,
même
Saint-Jean.
Ils sont circoncis, puis ils sont même pas juifs.
Oui, mais il y en a qui émettent les cultures, la culture juive. Fait qu'on était appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est fort, là, parce que ça nous dit qu'on n'avait absolument rien en tant que païens. Aucune promesse de la part de Dieu nous avait été faite pour nous. Tout avait été donné pour le peuple d'Israël et que par le peuple d'Israël, il aura béni ceux qui vivent sur la terre. Mais ça s'est passé aussi un peu de même parce que le Christ descend d'Israël, puis c'est par la descendance des Juifs qui est le Christ, que la bénédiction est venue sur la grandeur de la planète à tous ceux qui le reçoivent.
Car le salut vient des Juifs.
Oui, le salut vient des Juifs à travers d'une personne. Puis c'est ça que ça nous dit l'autre verset suivant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez-vous? Ceux qui se disent, on est en contact avec le Dieu de la nature, le Dieu créateur, ils se pensent tous fils de Dieu, sont tous dans les ténèbres. Parce que la Bible nous dit qu'on était tous sans Christ, privés du droit de cité en Israël. On était étrangers aux alliances de la promesse. On était sans espérance puis sans Dieu dans le monde. Fait qu'il n'y a personne qui était vraiment sauvé avant de recevoir le Christ.
Il y a juste quelques-uns comme David qui était rempli du Saint-Esprit.
Oui, mais ils le sont devenus après, quand ils se sont attachés à Dieu. Oui, mais avant de s'attacher à Dieu, on était tous, Lucie, sans Christ, sans Dieu. C'est quand il a mis sa foi dans toutes les promesses de Dieu, là, il a reçu les choses que Dieu lui a données. C'est ça. Dans ce temps-là, il croyait qu'il y a, aux promesses de Dieu qu'il avait reçues jusqu'à ce moment-là. Il croyait dans la révélation de Dieu et dans la venue d'un Messie à venir. Tandis que nous autres, on croit du Messie qui est venu v'là 2000 ans. Ça dit maintenant, en Jésus-Christ, nous étions jadis éloignés, on était des éloignés de Dieu, on n'était pas en communion avec Dieu. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça veut dire que c'est à cause de l'œuvre de Jésus qu'on a pu avoir un accès à pouvoir s'approcher de Dieu puis pouvoir goûter la présence de Dieu. C'est extraordinaire. On ne l'avait pas avant qu'on passe par le sang de Jésus-Christ. La Bible nous déclare aussi encore un peu dans la même lignée que l'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il peut pas comprendre. Il fallait que le Saint-Esprit vienne nous les révéler. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, l'homme naturel, c'est l'homme qui vit au monde de la première naissance, la naissance de la chair. Il dit que la chair est en premier. Naître de l'Esprit, ça vient en deuxième. L'homme spirituel, ça vient en deuxième. C'est lorsque tu nais de nouveau. Fait qu'en naissant, l'ensemble des êtres humains en venant au monde sont homme animal, homme naturel, sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Il y a juste quand une personne réalise son état, puis qu'elle va à Jésus-Christ pour passer par le sang de Christ, dans le Messie, dans la foi dans le Messie, c'est là que le pardon y est offert, puis c'est là que la source de toutes les bénédictions de Dieu viennent. À partir du moment que nous le recevons, que nous recevons Jésus-Christ, nous expérimentons la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau. C'est une nouvelle naissance. C'est comme si tu nais une deuxième fois. Tu reviens au monde, mais tu reviens pas dans le monde terrestre. Tu rentres dans le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le royaume de Dieu. Tu viens de naître spirituellement pour faire partie des habitants du ciel. Puis cette nouvelle naissance-là, c'est en deuxième. On voit ça dans Jean 3, le verset 1. C'est à partir du moment que tu reçois le Christ. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment qu'un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez-vous, ce qui est né de la chair est chair, puis tout le monde sont nés de la chair. Mais il faut aussi qu'on naisse de l'esprit. Puis ça, naître de l'esprit, c'est de recevoir l'esprit. Oui, ça commence par le désirer parce qu'on ne l'avait pas. Faut désirer faire les pas vers Jésus-Christ parce que lui-même a fait les pas pour pouvoir nous donner l'accès. Il faut mettre notre foi dans son œuvre qui a accompli, sa mort sur la croix, son sang qui a été versé. C'est dans le but de nous purifier de nos péchés. Si on croit ça, puis on s'attache à cela, là, le but ce soir, c'est quelle est son œuvre en celui qui le reçoit. Fait qu'à partir du moment qu'une personne le reçoit, la Bible appelle ça naître de l'esprit ou naître de nouveau, Il dit, ça nous parle de deux naissances. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. L'homme animal est né d'eau. Parce qu'il y en a qui interprètent ça, ça parle du baptême, s'il faut que tu sois baptisé d'eau, ça n'a pas rapport. Ça dit dans ce texte-là deux naissances, la naissance de l'homme animal puis la naissance de l'homme spirituel. Faut que tu naisses d'eau et d'esprit. La première naissance est d'eau. Quand ça qu'on est né d'eau, c'est quand on est sorti du ventre de notre mère. Nous étions dans l'eau. Puis là, on est sorti, nous sommes nés d'eau, puis nous, là, on était homme animal. Après ça, quand tu reçois le Saint-Esprit, si tu deviens l'homme spirituel, de la naissance de l'Esprit. Là, ça, c'est quelque chose qui s'expérimente. C'est pas quelque chose de visible, mais c'est quelque chose qui s'expérimente. C'est ce qu'on entend, il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La nouvelle naissance se fait comme un vent, le vent de l'Esprit qui souffle en toi, puis tu viens de naître pour la nouvelle vie, la vie éternelle, puis tu viens de naître pour l'entrée. Là, tu peux voir et entrer dans le royaume de Dieu et de vivre le royaume de Dieu en commençant par cette communion-là que tu vis par l'Esprit de Dieu. Tout ça passe à ta conversion lorsque tu le reçois. Puis par la grâce de Dieu, nous pouvons commencer une nouvelle vie avec l'Esprit Saint. Parce que c'est comme si Dieu nous donnait une deuxième chance. On était tout croche, on vivait tout croche. On désobéissait à Dieu, on transgressait les commandements de Dieu, on péchait contre Dieu, on offensait Dieu, on était digne du châtiment éternel, digne d'être jeté dans les temps de feu, parce qu'on était des serviteurs du diable et qu'on ne faisait que du mal. Puis Dieu, il nous donne une chance de pouvoir commencer à zéro avec la nouvelle naissance. C'est ça que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'il vient t'accompagner, il vient rentrer en toi une fois que tu as reçu le pardon, en croyant en Jésus-Christ qui te pardonnait. Tu reçois le pardon, puis là, après ça, le Saint-Esprit peut entrer pour t'aider à commencer cette deuxième vie-là. Une vie parce qu'il veut t'accompagner dans ta marche. Il veut pas te laisser tout seul. Il veut être avec toi, puis il veut que tu marches avec lui, puis qu'il y ait une relation qui se développe. Lui va te parler, va t'instruire, va te montrer les choses, puis toi, tu vas t'accrocher à sa force pour que lui te soutienne, puis qu'il t'affermisse. Il y a une relation, puis ça te donne comme un nouveau départ. La Bible appelle ça que t'es une nouvelle créature. C'est ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme il te donne une grâce de pouvoir recommencer à zéro en marchant en communion avec le Saint-Esprit. Puis l'authenticité d'un chrétien, hein, pour dire si vraiment c'est un chrétien authentique, parce que ça se vérifie, ce sont des chrétiens authentiques. Ça se réfère à cette expérience-là. La nouvelle naissance. La personne a-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu né de nouveau? S'il n'est pas né de nouveau, là, elle l'a poursu le Saint-Esprit. Si elle a poursu le Saint-Esprit, c'est pas un vrai chrétien authentique. C'est pas parce qu'ils ont une croyance de Jésus que Jésus est là, que si on est de nouveau automatiquement. Il peut y avoir du monde assis à côté de nous dans l'église évangélique, puis qui sont là à tous les semaines à entendre des messages, mais ils n'ont jamais compris par la foi de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, puis ils l'ont jamais réclamé pour eux, puis ils n'ont jamais demandé le Saint-Esprit, fait qu'ils sont jamais nés de nouveau, puis ils l'ont jamais reçu, fait qu'ils c'est pas des vrais chrétiens. Ils sont assis là, puis on n'est même pas sûr que s'ils font pas, là, d'ici à ce qu'ils meurent, ils vont mourir dans leur péché, puis ils seront pas là dans la présence de Dieu. Faut que tu le confesses, puis faut que tu demandes au Seigneur d'entrer dans ta vie, puis le Saint-Esprit va le faire. Puis ça, c'est l'authenticité de ça, Paul, là, il confirme dans sa parole, dans Galates 6, 14, ça nous dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier dans d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Cette nouvelle création-là, c'est donnée par lorsque le Saint-Esprit entre dans la personne. À partir du moment que tu as reçu le Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. C'est une chose qu'en position, tu es devenu. Ça paraît pas tout le temps à l'œil, là. Les expériences que tu vis quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est que tu deviens une nouvelle créature, t'es lavé de tous tes péchés, t'es rempli du Saint-Esprit. Ça paraît peut-être pas à l'œil, mais des fois ça paraît à l'œil lorsque les dons spirituels se manifestent. Mais il y a différentes choses qui se produisent, c'est que la vie de la personne change. Ça, on va le voir dans la suite de l'étude, tout le travail que le Saint-Esprit fait pour pouvoir changer une personne une fois qu'elle l'a reçu. Mais le fait de le recevoir, c'est ça que tu deviens une nouvelle créature. Avant, on était des créatures, on est tous des créatures de Dieu.
Oui.
Mais tu peux être une créature de Dieu qui est devenue une nouvelle créature. Puis là, tu n'es plus une...
On n'est pas ses enfants, on devient ses enfants quand on accepte.
Oui, on devient son enfant, mais on est une créature qui peut devenir une nouvelle créature régénérée par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble du monde sont des créatures, mais ils sont pas de nouvelles créatures. Pour le devenir, il faut que tu passes par le Christ pour recevoir le pardon et demander le Saint-Esprit pour être rempli du Saint-Esprit pour que tu sois une nouvelle créature. On marche plus selon l'ancienne créature qu'on est. On marche selon la nouvelle création, nouvelle créature que Dieu a faite en nous, à notre nouvelle naissance, en nous donnant le Saint-Esprit. Gloire à Dieu!
Gloire à Dieu!
Paul s'assurait que les gens l'avaient reçu, l'Esprit Saint. Il questionnait les gens pour leur demander. Oui, mais Paul le demandait directement. Dans Actes 19:2, il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Puis il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est fort parce que c'est des gens qui avaient cru. Il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous aviez cru? » Ils ont cru, ils croyaient en Jésus. C'était du monde qui parlait de Jésus. Mais ils n'étaient pas sauvés. Il dit, « On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. » Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait du monde qui croit en Jésus, qui parle de Jésus, puis qui ont poursu le Saint-Esprit.
Oui,
alors, regardez la parabole des 10 vierges. Les 5 qui étaient avec l'huile dans leur lampe, les 5 qui ne l'étaient pas. Les 5 qui ne l'étaient pas, ils attendaient, les 10 attendaient le retour du Messie. Mais il y en avait 5 qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ça représente le Saint-Esprit. C'était des gens non nés de nouveau. Puis les gens non nés de nouveau, s'ils sont pas nés de nouveau avant l'enlèvement, ben c'est bien ben just too bad. Ils sont faits parce que même s'ils reviendraient cogner à la porte du Seigneur après, ça nous dit la porte fut fermée. La porte de la grâce va fermer à l'enlèvement. Faut que le monde accepte avant l'enlèvement. Fait que Paul ne regardait pas juste la personne croyait. Il regardait si la personne avait reçu le Saint-Esprit. Parce que si tu écoutes le monde parler, il y en a plein qui parlent de Jésus. Là, j'en ai entendu plein du monde qui parle de Jésus, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Puis si tu t'arrêtes, ils parlent de Jésus, c'est correct. Non, il y a plusieurs Jésus dans le monde. Il y a des faux Jésus, il y a des fausses religions qui prêchent des fausses évangiles, puis qu'il y a un autre esprit que le Saint-Esprit. Puis les gens reçoivent pas automatiquement le Saint-Esprit juste parce qu'ils ont parlé de Jésus. Jésus a parlé à du monde qui avait fait des miracles en son nom, puis Jésus les connaissait même pas. Puis ils ont traité d'ouvriers d'iniquité. C'est qu'il y a des gens qui sont religieux, puis qui marchent avec d'autres esprits, puis ils parlent de Jésus dans leur religion, mais ils sont pas en communion avec le vrai Dieu de la Bible. Puis ils marchent dans des égarements produits par ces esprits-là. Ces esprits-là font des faux miracles, mais la manière pour le discerner, c'est l'enseignement qui est là. L'enseignement qu'ils ont reçu, c'est ça qui démontre si c'est la vraie patente. Le vrai Jésus de la Bible, la vraie Évangile, le vrai Saint-Esprit. Parce qu'il y en a des faux, Paul en parle dans Corinthiens au chapitre 11. Il dit, il reproche aux Corinthiens d'avoir accepté un autre Évangile, un autre Jésus, puis recevoir un autre esprit que celui qu'il avait reçu. Il s'en véhicule des faux Évangiles, puis des faux Jésus, puis d'autres esprits. Il faut s'assurer que c'est l'esprit de la parole de Dieu qu'on a reçu. Puis là, on est devenu une nouvelle créature, puis on a commencé une nouvelle vie, puis qu'on est vraiment sauvé. Sans cela, on ne l'est pas sauvé. Jésus, en nous sauvant, il a commencé à nous renouveler par le Saint-Esprit. Lorsque tu le reçois, là, il y a quoi qui change dans ta vie? Tu t'en aperçois que ta vie change, tes pensées changent, ton langage change, tu parles différemment. En nous sauvant, Jésus a commencé à nous renouveler par le Saint-Esprit. Tout le travail, là, on parle de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'on le reçoit, la conversion, la régénération, la croissance de notre vie chrétienne, sont toutes attribuées au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a aidés à se convertir, c'est le Saint-Esprit qui est venu en nous quand on l'a reçu, puis qui nous a régénérés, il nous a donné des gènes nouveaux pour être une nouvelle créature. La nature de Dieu était déposée en nous. Puis toute notre croissance de notre vie chrétienne, ça a été donné au Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout cet ouvrage-là. Avec aussi la volonté de celui qui le reçoit. Parce que Dieu ne travaille pas contraire à notre volonté. Parce que ça peut arriver qu'on est chrétien, on résiste à son travail, ou on peut résister pour l'accepter, Jésus, puis on peut résister aussi à se laisser transformer. Puis là, c'est là qu'il faut... notre vitesse de croissance va dépendre de la vitesse de notre obéissance. Plus qu'on va vouloir avancer dans le Seigneur, plus qu'on va avancer vite. Il y en a qu'au bout de 3 ans, ils t'ont rendu pasteur. Puis il y en a d'autres qui ont 30 ans, puis ils sont pas comme... Mais ça ne nous empêche pas que les dons sont différents. C'est pas un mérite d'être plus pasteur ou plus évangéliste ou plus d'autres choses. On a des dons différents. Mais le point est que l'endroit où ce que le Saint-Esprit voulait nous amener, des fois à cause de notre résistance, ça prend plus de temps à se rendre. Dans Ézéchiel, on voit ce travail-là produit par le Saint-Esprit dans Ézéchiel 36-26. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre, puis je vous donnerai un cœur de chair. » Voyez-vous, tout le travail, que c'est Dieu qui se propose de faire ce travail-là dans la personne. Fait que la personne, avant d'accepter Jésus, elle pouvait être rebelle au bout, elle pouvait être un meurtrier, un voleur, un fraudeur, un blasphémateur, un débauché sexuel, il pouvait être de toutes les perversions que ça voudra. Quand tu viens à Jésus-Christ, c'est Jésus qui change ton cœur de pierre, puis il met un cœur de chair, puis il te donne un esprit nouveau, puis il veut te modeler, il veut te changer. C'est lui qui enlève les motons, puis qui rajoute des bonnes choses dans notre vie. C'est le travail du Saint-Esprit. Puis plus qu'on veut qu'il le fasse, plus qu'il va le faire. Puis jusqu'à aujourd'hui, il a fait plein de choses, puis il en reste encore à faire. Puis on y remet tout entre ses mains. Dans Ézéchiel 36-27, ça nous dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Tu vois que même notre volonté de suivre Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire, parce que dans notre nature humaine normale, on voudra encore tout abandonner, on voudra tout se débarrasser de toute obligation de faire quelque chose pour faire le Seigneur. Ézéchiel 37-14, il dit, c'est une autre promesse dans ce même sens-là, il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu, il dit, je vais le mettre en vous, puis vous vivrez. Fait que tout notre désir, nos intérêts de suivre Jésus, notre volonté, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui, c'est à cause de lui, puis c'est à cause qu'on le laissait faire, puis qu'on en veut plus, qu'on est encore là 30 ans plus tard. Puis que, par la grâce de Dieu, qu'on va être là, malgré tous les problèmes qui vont venir dans la suite de l'histoire de la vie, parce qu'il va y avoir d'autres problèmes. On a envie des problèmes en tant que chrétien, mais il y en a d'autres sortes de problèmes qu'on n'a pas encore vécu. Puis l'instabilité dans le monde, là, au point de vue de la vie, à cause des cataclysmes, puis de tout ce qui va arriver dans les sauts puis les trompettes, ça va être laid dans le monde. Puis les chrétiens vont être encore là quand ça va se vivre. Mais il faut apprendre à s'accrocher à Dieu, à prendre la force en Dieu pour marcher. Il dit, veillez y prier afin d'avoir la force de tout surmonter, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Faut avoir la force de tout surmonter, puis de paraître debout. Ça veut dire qu'il faut veiller prier, il faut aller chercher cette force-là. C'est le Saint-Esprit qui va la produire en nous. Puis si on ne croit pas qu'il y a un Saint-Esprit, mais on n'a même pas compris encore c'est quoi la nouvelle, le salut. Parce que tous ceux qui ont expérimenté le salut connaissent le Saint-Esprit. Ils savent que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit parle, puis il révèle des paroles en lisant la Bible. On cache des choses, puis ça nous instruit, puis ça nous fait du bien. Ou quand on loue le Seigneur, puis que là, on est rempli du Saint-Esprit, ça nous bénit. On le vit, le Saint-Esprit, puis il faut qu'en tant que chrétien, qu'on se lasse jamais de désirer d'être en présence de l'Esprit-Saint, puis il faut en parler comme si on devrait s'exciter à toujours l'en vouloir plus, pour qu'on voit son œuvre à l'œuvre dans nos vies, puis dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Ben, c'est lui qui fait les choses, puis toute la gloire revient à Dieu dans tout ça. Puis le dernier verset qui nous dit « La croissance de chaque chrétien provient du Saint-Esprit ». Acte 9, 31, ça dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Voyez-vous, la croissance de chaque chrétien qui forme l'Église du Seigneur, mais il y a une édification, puis dans l'Église, tu trouves une augmentation de ta foi, mais tout ça, c'est l'accroissement qui nous est donné par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui maintient les églises en vie spirituellement. La minute que les églises commencent à focusser sur les hommes, à regarder aux hommes, puis leurs talents, puis leurs capacités, puis commencer à vénérer le pasteur parce qu'ils le prennent quasiment comme un dieu, puis comme s'il y aura réponse à tout, puis comme si toutes les paroles qu'il dit, ça serait les bénédictions du ciel. Non, c'est vrai que les bénédictions peuvent sortir de sa bouche, mais il n'y en a aucunement une gloire. C'est le Saint-Esprit qui parle en lui pour édifier l'Église, comme le Saint-Esprit parle à travers de n'importe quel chrétien dans l'Église quand il est rempli de l'Esprit, dans le but d'amener une édification dans tous les dons que le Saint-Esprit veut opérer lui-même dans l'Église, pour que l'Église grandisse, puis s'accroître, puis que les gens s'ajoutent à l'Église, puis que l'Église reste Église. Sinon, si le Saint-Esprit se retire, ça devient un club social sans Dieu dans l'Église. Puis on voit cet exemple-là dans l'Apocalypse au chapitre 3 qui nous parle de Jésus qui se tient à la porte puis il frappe. Ça parle de la porte d'une église parce qu'il dit, dans cette église-là, il se disait, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Puis Dieu dit, tu sais pas que t'es pauvre, misérable, aveugle, puis nu. Puis là, le Saint-Esprit s'était retiré de cette église-là parce qu'elle était autosuffisante, parce qu'elle se glorifiait d'être autosuffisante. Elle dit, j'ai pas besoin de rien. Il se pensait avoir atteint tout le maximum, puis avoir tout ce qui était nécessaire à la vie chrétienne. Mais quand Jésus est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une église pauvre, misérable, aveugle et nue. Puis Jésus est à la porte de son église dans ce verset-là, puis il dit, je frappe, mais j'espère que quelqu'un va y ouvrir la porte pour qu'il puisse re-rentrer dans son église. Et c'est fort. Mais c'est pour dire que nous, en tant que chrétiens, continuons toujours à s'exciter et à rester enflammés dans le désir de demeurer dans le Saint-Esprit et de vivre des choses par le Saint-Esprit. Prions. Père et Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on vient te remercier pour tes beaux versets, Seigneur, qui nous font du bien, pour nous nourrir spirituellement, pour nous donner le goût d'être en présence de ton Saint-Esprit. Prends toute la place dans nos vies, Seigneur. Pardonne nos péchés, puis remplis-nous de ta présence et de ta puissance, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous régénère, nous transforme, nous donne de grandir spirituellement, qu'il nous équipe, qu'il nous fortifie, qu'il nous utilise, Seigneur, dans ce monde. On te donne nos vies, Seigneur. Viens nous changer, nous transformer. On est disponible pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Hallelujah.